Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Claire Alverne. Claire est l'une des trois fondatrices de la marque annécienne Les Hirondelles. Les Hirondelles est une marque de mode pensée pour la planète, un vestiaire intemporel fabriqué dans des chutes de tissus de l'industrie textile française. Claire, Clarisse et leur acolyte Claire ont imaginé cette marque avec la volonté de réduire l'impact environnemental de la mode. Leur démarche s'inscrit en suivant les principes et les fondements de l'économie circulaire. Ces trois femmes ont à cœur de faire les choses bien et cela se ressent. J'espère que cet échange avec Claire vous plaira et qu'il vous permettra de découvrir cette jolie marque française. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Claire.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien, je suis ravie d'être là.
Je suis ravie de te recevoir au micro. Tu es à la tête de la marque Les Hirondelles. On va en reparler, c'est une marque basée à Annecy. Et donc c'est vrai que quand j'ai su que je déménageais ici, j'ai tout de suite eu envie de rencontrer les entrepreneurs du coin, les acteurs du changement dont tu fais partie. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, alors je suis Claire Alverne, je suis une des trois cofondatrices de la marque Les Hirondelles. Les deux autres étant Claire Chiquet et Clarisse Cazenave.
Est-ce que tu peux d'abord nous parler des Hirondelles, de votre marque?
Alors, les Hirondelles, c'est une marque de vêtements pour hommes et femmes qui produit 100% en France des vêtements simples et intemporels à partir de matières éco-responsables, c'est-à-dire en valorisant des chutes de l'industrie textile française. En fait, aujourd'hui, en France, il y a environ 80 usines de tissage qui produisent chaque année, à elles toutes, à peu près 80 millions de mètres de tissu neuf. Et on estime entre 2 et 5% les taux de rebut, en fait, de ces productions. Et du coup, il y a à peu près 4 millions de tissus qui sont mis de côté par l'industrie textile. Et nous, on avait envie de proposer une solution pour valoriser ces chutes de production, ces chutes de tissus. Et donc, on est allé voir des tisseurs. On a commencé avec les tissages de Charlieu, qui sont à côté de Roanne, au nord-ouest de Lyon. Et on leur a présenté notre démarche. Et puis, du coup, on a commencé avec eux en 2016. Et voilà, on a fait un premier test marché en 2017. Et maintenant, la société existe depuis 2 ans et demi.
Qu'est-ce qu'ils font, en fait, de ces rebuts de tissus? Normalement, ils sont destinés à la poubelle, au tri?
Alors, il y a plusieurs valorisations possibles. Il y a dans le pire des cas, il y a la destruction. Souvent, quand il y a un tissu qui a, par exemple, qui est logoté ou quoi, on ne peut pas l'utiliser de toute façon. Après, il y a le déstockage où il est souvent envoyé à l'étranger, du coup, pour être utilisé par d'autres biais. Donc, c'est assez opaque. On ne sait pas trop dans quelle mesure c'est valorisé après. Et c'est à la tonne, quoi. C'est pas forcément trié. Il y a le recyclage, mais du coup, c'est utilisé. On a l'impression parfois que c'est pour refaire du tissu, mais en réalité, le fait de recycler du tissu nécessite de le broyer et tout ça. Et du coup, on est plus sur après un usage, par exemple, pour faire des revêtements. Enfin, c'est injecté dans le matériau pour faire les routes ou des choses qui n'ont rien à voir. Donc, ça veut dire que cette matière, de toute façon, même si elle est recyclée, elle a été produite pour rien, pour rien dans son usage premier, en tout cas.
Et est-ce que les entreprises doivent payer pour se séparer de ce tissu, pour le mettre à recycler ou pas? Est-ce que finalement, elles étaient soulagées que vous veniez récupérer ce tissu?
Alors, dans le cas des tissages de Charlieu, ce n'est pas le cas parce qu'eux, ils déstockent principalement à la tonne, enfin au camion. Dans le cas de Marc, ça peut arriver qu'ils soient obligés de payer pour le détruire. Dans le cas du tissage de Charlieu, on leur rachète, mais un peu plus cher que du déstockage. Du coup, sachant que quand on l'obtient, du coup, le tissu est tombé de métier, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore ennobli, donc il y a encore une étape après qu'on doit prendre en compte et puis amener jusqu'au bout pour avoir une matière utilisable finalement.
D'accord. Ok, donc il y a encore une étape avant de pouvoir le coudre.
Oui, le couper, le coudre et en faire des produits.
Et donc vous rendez dans cet endroit, vous choisissez les tissus, ils vous proposent une sélection.
En fait, on a validé le fait qu'on voulait principalement des tissus en matière naturelle, d'origine naturelle, donc plutôt des cotons bio de préférence. Après, on a validé aussi qu'on voulait que ce soit des coloris simples et intemporels, donc des unis, des coloris assez classiques, en fait, qui nous permettent de créer un vestiaire dont on ne se lasse pas et qui ne dépend pas vraiment des saisons. Et voilà, on ne fera pas le petit motif ananas qu'on adore un moment et puis 3 mois après, on ne peut plus le voir parce qu'on l'a trop vu. Du coup, y a toute une partie des tissus qu'on sélectionne pas. Et après, notre volonté à nous, c'est de devenir un fédérateur, en fait, de venir s'implanter dans l'écosystème de l'industrie textile et de devenir un élément qui permet de rendre le tout plus éco-responsable. C'est-à-dire qu'on propose cette solution de valorisation aux tisseurs, mais aussi aux marques. Parce que les marques ont aussi des fois des surplus de tissus et tout ça. Et du coup, l'idée, c'est de venir en complément de ce qui se propose et de, par notre existence, proposer une solution concrète, mais aussi sensibiliser à la démarche de l'économie circulaire. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Et on a planté plein de petites graines qui commencent à germer. On achète déjà des matières à des marques, ouais.
Des tissus aussi qui sont fabriqués en France, qui sont tissés ici.
Ouais, qui sont tissés, tricotés. Je dis tricotés parce que quand c'est du jersey, par exemple, pour les t-shirts, ça s'appelle du tricot. Même si après, on le coupe et qu'on le... Il n'y a pas des aiguilles à tricoter comme quand on imagine la grand-mère qui tricote, mais c'est des machines industrielles qui font du tricot.
Et c'est un univers que tu connaissais, que vous connaissiez ?
Alors, moi, je suis issue de 10 ans de freelance dans l'industrie textile, mais plutôt spécialisée sport et vêtements de montagne. Du coup, j'ai travaillé pour beaucoup de marques, des marques du groupe Decathlon, des marques de ski, ou des marques un peu comme ça, des marques françaises, mais qui ont des fonctionnements plus traditionnel dans la mesure où... Enfin, je dis traditionnel parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le modèle qu'on va petit à petit quitter, mais, mais qui est de produire très, très loin des collections. Et donc, voilà. Donc, j'ai pu un peu voir, aller en Chine, voir comment ça se passait, voir dans des grands groupes comment ça se passe pour obtenir des prix qui permettent de proposer... Parce qu'on connaît aujourd'hui la grande distribution ou la distribution classique de vêtements. Ce n'était pas dans le prêt-à-porter, mais c'est un peu les mêmes problématiques.
Ouais, donc tu connaissais quand même un petit peu cet univers et en tout cas, tu savais tout ce que tu ne voulais pas reproduire avec les hirondelles.
Oui, et ça m'a posé la question. On a une urgence climatique qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour agir positivement pour contribuer à faire que ça change.
Et d'où est née cette prise de conscience pour toi ? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de changer radicalement de métier, de proposer ces vêtements-là ? Pourquoi la mode ?
En fait, au moment où est née l'idée des hirondelles, on partageait nos bureaux avec Claire et Clarisse en tant que freelance. Donc Claire est DA, graphiste. En fait, elle crée des logos, elle fait de l'identité de marque pour différentes marques, dont à un moment donné, elle travaillait avec Patagonia ou avec différentes entreprises engagées. Et Clarisse, elle a un parcours un peu école de commerce. Et puis surtout, elle a fait un master en développement durable, en marketing responsable. Donc, en fait, elle avait cette approche engagement. Engagement, RSE, tout ce qui est des problématiques liées à l'environnement et comment on peut proposer des solutions pour l'améliorer. Et du coup, on travaillait toutes les trois pour un ami commun avec qui j'ai travaillé dans ma vie d'avant, qui créait son entreprise qui s'appelle To The Fit, qui est spécialisée dans le patronage industriel pour les marques de sport, mais aussi pour le prêt-à-porter. Et en fait, on s'est dit, on a tous les éléments, on a tous les outils, on a toutes les compétences. Et pourquoi on n'essayerait pas quelque chose? Et du coup, on l'a fait petit à petit, en fait. On a écrit un projet, on avait mis tous les curseurs du développement durable au max. Donc, on avait la production à la commande, on avait le circuit court, la distribution directe, on avait la valorisation des chutes, les matières naturelles, etc. Et du coup, là, récemment, après 2 ans et demi d'expérimentation, de choses qui fonctionnent et d'autres un peu moins, du coup, notamment avec le Covid aussi, on se réoriente vers une distribution plus classique, donc principalement web et puis un peu de boutique. Et du coup, on espère que ça nous permette de croître et de rendre le projet viable, parce que c'est notre objectif de l'année.
Avec le Covid, quels ont été les retours? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Un engouement pour la mode éthique? Un ras-le-bol de toute cette fast fashion?
J'ai le sentiment qu'il y avait effectivement... en tout cas, on parlait beaucoup de développement durable, de nécessité de changer de monde. Pour employer les grands mots, c'était vraiment « demain, ça ne sera plus jamais pareil » et tout ça. Après, dans les faits... ça a été aussi très rapidement récupéré par les grands groupes qui ont mis en place des choses et qui certainement vont agir. Mais en tout cas, du coup, ça devient une grande cacophonie de mon point de vue. Et du coup, c'est compliqué pour les gens de s'y retrouver. Et puis, en tout cas, moi, j'observe à ce jour une espèce de sentiment de parler dans un grand brouhaha et d'avoir du mal à s'y retrouver, de se retrouver face à beaucoup de greenwashing et de choses de ce genre-là. Du coup, on se dit c'est le moment pour nous d'exprimer encore plus clairement ce qu'on fait, parce que la légitimité, on l'a, les solutions, on en a. Mais je pense qu'il faut encore qu'on travaille pour devenir une démarche qui soit facile pour les gens déjà de la comprendre et ensuite de se l'approprier pour que ça devienne quelque chose de collectif et que ce ne soit pas juste nous qui faisons notre petite histoire dans notre coin.
Oui, parce que finalement, c'est peu fréquent ce système d'économie circulaire dans la mode.
En fait, ça allait un peu plus à l'échelle artisanale, du fait de upcycler, donc de faire avec ce qu'il y a, mais sur soit des produits qui ont déjà vécu, qu'on customise ou qu'on se réapproprie. Soit on entend de plus en plus parler de démarches de friperie, de seconde main, de tout ça. Ça fait partie des gros piliers du développement durable avec l'histoire des 5 R. Mmh. Et du coup, ça, d'une certaine forme, ça existe déjà. Nous, ce qu'on apporte, et pour le coup, je pense que c'est assez, c'est très rare aujourd'hui. C'est la dimension industrielle en fait de cette démarche qui est par nature avec des quantités limitées en fait. Donc les hirondelles se situent à mi-chemin entre la démarche pas créateur, mais en tout cas vraiment de pièces de série extrêmement limitées et l'échelle industrielle. Qui n'est pas ce qu'on fait, enfin, on le fait en petite série, mais dans des ateliers avec des fonctionnements qui sont proches de l'industrie, enfin qui sont industriels, mais qui sont proches de la grande industrie, mais en restant un peu entre les deux comme ça.
Et selon toi, qu'est-ce qui doit être changé dans le monde de la mode aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut transformer complètement ?
Alors, du point de vue des individus, des gens, je pense qu'il y a un des plus gros, si j'avais une baguette magique, ça serait de dire aux gens d'aller se renseigner plus sur comment c'est fait un vêtement. Parce que ça nous arrive que les gens nous disent « mais vous voulez dire que vous les faites à la main ?» les vêtements, et du coup on leur dit bah, avec une machine à coudre, mais il y a forcément quelqu'un qui se sert de cette machine à coudre en fait. Mais en fait c'est le cas pour tous les vêtements qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire que ça n'existe pas en fait, que ce qui soit fait en Chine, au Bangladesh ou chez nous, il y a toujours quelqu'un derrière la machine qui appuie dessus en fait. Et ce n'est pas le cas dans l'injection plastique, ce n'est pas le cas dans plein de domaines. Et du coup, on a perdu la notion du fait qu'il y a des humains à chaque étape. En fait. Et parce que dans d'autres domaines, ce n'est pas nécessaire. L'injection plastique, on appuie sur un bouton et toute la journée, il y a des pièces qui sortent qui sont les mêmes. Voilà. Et dans le vêtement, parce qu'il y a autant de travail humain derrière, il y a autant de possibilités de ce que j'appelle l'esclavage moderne, mais c'est ça, c'est d'avoir des gens qui le font sans avoir de valorisation de leur travail. Et donc, quand on paye un produit 7 euros, alors qu'il y a des heures de travail dessus, forcément, entre la plante qui a fait le coton et le produit fini, ça ne peut pas être à ce prix-là sans avoir cautionné des choses. Voilà. Donc, il y a cette notion-là. Si les gens étaient un peu plus au fait de ça, ils ne pourraient pas continuer d'acheter à ce prix-là et d'acheter de cette quantité-là sans avoir en tête tout ce qu'il y a derrière. Et l'autre chose, c'est sur le côté de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin ? Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire ne pas se faire plaisir, ça ne veut pas dire ne pas avoir de fantaisie ou quoi que ce soit, mais ça veut dire avoir un peu plus de conscience ouais, dans les achats. Et du coup, il y a une forme de sobriété qui découle de ça. Mais je ne veux pas rentrer dans le discours rabat-joie, parce que c'est vrai que des fois, quand on est tellement dedans qu'après, on a une sorte d'écœurement et il ne faut pas que ça devienne ça pour les gens. Mais... voilà ce que je voudrais changer dans la mode. Le côté, on se renouvelle toutes les semaines, on apporte des nouveautés et tout ça. Ça crée un fonctionnement qui est aberrant par rapport à ce que le rythme de la mode est totalement déconnecté du rythme de la planète, du vivant, du temps qu'il faut pour faire les choses. Et du coup, les gens s'attendent à se renouveler tout le temps. Et voilà. Avec le Covid, on a vu des DA dire maintenant c'est insupportable, on ne pourra plus tenir d'avoir une nouvelle collection toutes les semaines, il faudra qu'on en fasse au moins toutes les 2 ou 3 semaines. Et nous, on se dit, mais
c'est
toutes les
2 semaines,
vraiment. Enfin, voilà, il y a des dérives comme ça où on est allé loin dans le renouvellement permanent.
vous fonctionnez pas avec un système de collection ?
Non. Nous, on propose des produits par rapport à ce qu'on a. Et du coup, vu que les produits qu'on vend sont portables toute l'année, on part du principe que voilà, du coup, il n'y a pas de saison, en fait. On l'a, il est disponible, et on ne l'a plus. Ben, comme c'est des séries limitées, ben, ça se renouvelle de cette façon. Et après, plus on en vendra, et plus on aura une fréquentation des achats tout court de nos produits, plus ça se renouvellera rapidement parce qu'on pourra sortir de nouveaux produits parce qu'on n'a plus de matière et qu'on en valorise d'autres. Et voilà. Du coup, pour l'instant, c'est un peu lent et c'est possible que notre communauté soit un peu lassée de voir nos produits parce que ça fait presque un an pour certains. Ouais. Du coup, ouais. Mais bon, c'est le jeu du début.
Oui, et puis c'est aussi le jeu quand on récupère des tissus et qu'on fait le choix de ne pas avoir des nouvelles collections. Je pense que le consommateur doit aussi l'accepter. Et comme tu disais, il faut juste qu'on change de paradigme et qu'on change notre vision, mais c'est pas facile.
C'est pas instantané, c'est pas facile.
Ce qui m'intéressait avec la création de votre marque, c'était de savoir dans quelle mesure vous aviez besoin de la créer et qu'est-ce qui, dans la mode éthique, il y a 3-4 ans, ne correspondait pas à ce que vous recherchiez. Pourquoi ce besoin de créer ? Est-ce que c'était justement pour promouvoir ce système d'économie circulaire plus global ? Ou tout simplement, il n'y avait pas ce que vous recherchiez dans la mode ?
Disons qu'en effet, à ce moment-là, à chaque fois qu'on cherchait des vêtements qui correspondent à nos valeurs, on se retrouvait assez rapidement sur des pièces de créateurs ou de l'artisanat ou des choses très marquées. Et on cherchait des vêtements simples pour le quotidien, qui soient juste bien coupés, mais qui ne soient pas forcément avec une identité très forte, en se disant qu'on pouvait après compléter avec des pièces de créateurs, justement, mais qu'on ne pouvait pas tous les jours avoir un style de fou. On avait envie d'avoir des piliers de notre garde-robe. Donc, c'était ça, l'envie derrière. L'envie en tant que consommatrice derrière la création des hirondelles. Et après, en s'intégrant dans cet écosystème et en apprenant chaque jour plus sur la mode éco-responsable et française, on a découvert d'autres marques. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est qu'il y en a plus depuis ou si c'est qu'on les connaît et qu'on ne les connaissait pas avant. C'est sûrement un peu des deux.
Je pense qu'il y en a plus et je pense qu'il y en a plus qui se font connaître aussi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Comme vous.
Ouais, complètement. Et du coup, voilà, ça fait plutôt du bien de savoir que ça bouge.
Est-ce que vous avez des labellisations ou est-ce que vous êtes rapproché de certains labels pour asseoir votre crédibilité ?
Alors, on s'est renseigné sur tous les labels. Il y a un label assez intéressant et pertinent qui s'appelle Origine France Garantie. Mais c'est une certification qui est payante et qui est pour un produit. Et comme nous, nos produits sont par nature en quantité limitée, on ne peut pas... disons qu'on ne va pas payer un label pour 50 pièces et du coup, on n'a pas de... Voilà, ça ne correspond pas à notre fonctionnement, on va dire. Et après, il y a ce que certains appellent le label, mais ce n'est pas un label, c'est juste de pouvoir apposer le fabriqué en France. Ça, il n'y a aucun problème pour le faire. C'est juste qu'on est on sourit un peu en coin avec cette appellation parce que en vrai, elle ne protège pas grand-chose parce qu'on peut mettre ça et puis avoir juste une partie qui est faite en France et ce n'est pas obligé d'être le principal du produit. Donc, donc il y a ça. Et on part du principe que notre transparence et le fait qu'on dise tout, c'est la meilleure des garanties, en fait, pour les gens de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et de croire. Après, c'est sur la base de notre sincérité, mais on donne tellement de détails qu'on se dit que ça va, les gens ont l'air plutôt rassurés.
Vous donnez beaucoup de détails, notamment sur le prix. Vous détaillez beaucoup sur votre site. X pourcentage correspond à l'achat de la matière, tant à la confection. Ça, c'était vraiment la volonté d'aller vers plus de transparence.
Oui, il y a la transparence de la construction du prix, mais il y a aussi, si on va sur les fiches produits de chaque vêtement, sur notre site, il y a le tissu vient de là, la confection est faite là, les étiquettes, elles viennent de... Enfin, voilà, en fait, tout est dit pour chaque produit. Et aussi, on avait l'envie et la volonté de faire, en plus des reportages et tout ça. Bon, là, pour l'instant, on a peu de temps. Alors, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas forcément autant qu'on aimerait, parce qu'on voudrait mettre en avant les gens derrière la démarche et derrière les vêtements, donc ceux qui les font, ceux qui font le tissu. Et on se dit que c'est que, justement, en communiquant ça au maximum, que les gens pourront se rendre compte de toutes les étapes et de toutes les personnes qui sont impliquées dans la création d'un produit et du coup auront envie davantage de peut-être de contribuer à sécuriser leurs emplois à être ensemble dans la même histoire.
Ouais, de les soutenir et de voir tous les maillons de la chaîne dont on n'a pas forcément conscience.
Oui.
Aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'usines?
Et on a à peu près 12 ateliers partenaires. Il y en a 3 de confection, 3, 4, 5 entreprises avec lesquelles on travaille pour avoir les matières premières, donc les tissus, quoi. Après, il y a les fabricants de boutons, il y a les fabricants d'étiquettes, il y a l'ennoblisseur, celui qui fait l'étape après le tissu pour le finir. Il y a... ouais, à peu près voilà, une douzaine d'entreprises françaises. Et là, c'est sans parler la photographe, le modéliste, tout l'écosystème qu'il y a après sur le reste de la marque. Quoi.
De la communication.
Oui. Ouais.
Et combien de pièces est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Donc, tu le disais, c'est une garde-robe unisexe.
Ou c'est en pas tout cas... unisexe.
Non, c'est pas unisexe.
C'est mixte.
Ouais. C'est mixte, c'est vrai. Parce que... Non, non, t'as ouais. raison, c'est pas unisexe. Parce qu'il y a des modèles, des coupes femmes et des coupes oui. pour les hommes, c'est vrai.
Ouais.
Donc, ça fait combien de pièces dans votre garde-robe à peu près maintenant ?
On a 13 références produits en vêtements. On a 4-5 accessoires en cuir. Enfin, en fait, on a une ceinture en cuir qui est déclinée en 3 couleurs et puis... 3 ou 4 couleurs selon les moments. Et un étui à lunettes et un porte-carte en cuir qu'on a gardé. Donc, ça fait en tout ouais, une quinzaine de références de produits. Donc, homme-femme et puis les accessoires sont mixtes.
Pour le cuir, c'est le même principe. Vous récupérez du cuir qui était destiné à être jeté, recyclé.
Il y a les deux. Alors, pour tout ce qui est petits accessoires, oui, c'est ça. On travaille avec un couple d'artisans maroquiniers qui sont sur Annecy et on valorise... en fait, on fait des accessoires dans les chutes de leur cuir à eux, la plupart du temps. Et ça sera peut-être amené à changer prochainement parce qu'on a trouvé aussi des appros, des gens qui font des chaussures et qui, avec lesquels on travaille pour valoriser leur chute. Et pour les ceintures, c'est pas la valorisation de chute, c'est du cuir tannage végétal, donc origine Europe. La différence en fait, avec le tannage au chrome, c'est que ça utilise uniquement des éléments naturels. Et du coup, ça se patine, ça vieillit. Et comme voilà, on voulait un produit qui dure, qui soit simple et qui dure, on s'est retrouvé sur ce produit-là. Ouais.
Sur la ceinture.
Oui.
Oui, et vous avez récemment fait une collaboration avec un duo d'influenceuses, on va dire. je sais pas trop comment les appeler. En tout cas, oui, d'influenceuses sur Instagram. Deux sœurs qui sont assez investies dans le zéro déchet, dans le Made in France et tout ça. Comment ça s'est fait ? Pourquoi ? J'étais très heureuse de voir et découvrir cette collaboration. Je trouvais que c'était une belle idée.
Oui. Claire et Camille, du coup. Mmh. donc, elles ont créé un blog qui s'appelle « C'est l'air du temps ». Elles sont originaires de Toulouse et puis elles prennent le zéro déchet. Et donc Clarisse les avait rencontrées physiquement il y a un peu plus d'un an, ou peut-être c'était en août ou en septembre de l'année dernière. On a des valeurs communes, donc ça avait bien matché et tout ça. Et on s'était dit, il faut que quelque chose aboutisse de cette rencontre. Mais voilà, il a fallu un peu de temps parce que entre-temps, bah voilà, chacune dans ses challenges, et avec le Covid, du coup on a repris contact et on a réussi à aboutir sur ce produit qui permettait de le co-créer avec leur communauté. En fait, l'idée c'était d'impliquer leur communauté pour choisir la couleur, les détails, les finitions, le produit lui-même. Et puis du coup voilà, c'était plutôt chouette.
Et là, c'était de l'achat de tissus ou vous avez réussi à valoriser un tissu ?
En fait, on a alors même quand on le valorise, on l'achète, mais oui. C'était de la valorisation de chute.
Et t'es contente du résultat ? C'était chouette ?
Eh ben, c'est pas fini parce que il y a eu justement les problèmes avec la reprise de suite à confinement. Les ateliers ont eu du retard et du coup, c'est pas totalement fini. Donc on n'est pas encore rendu.
Les pièces ne sont pas sorties.
Non, On va finalement les faire là en septembre, mais du coup, c'était un peu long. Ouais. Donc, merci aux personnes qui ont joué le jeu.
Ça fait partie des aléas post-confinement.
Oui, complètement. Ouais. Encore, on n'est pas à plaindre parce qu'il y en a pour qui ça a été encore plus compliqué, mais... Là, c'est juste un peu, il y a un mois de... Parce qu'il y a eu le mois d'août en milieu où les ateliers étaient fermés. Donc, voilà, il y a eu un peu de délai, mais c'est pas annulé. C'est pas...
Non, bah ça...
C'est pas une année dans le...
Non, bah, c'est aussi l'avantage quand la production est proche, quand on peut rendre visite à ses ateliers, qu'on peut proposer des solutions. C'est beaucoup plus facile quand même que quand on a une énorme distance, comme ça peut l'être avec la Chine, le Bangladesh ou le Pakistan.
Complètement.
C'est bien différent. Mais après, on n'a pas forcément la même force de frappe non plus.
C'est ça. Et les mêmes marges.
Et les mêmes marges. Et quels sont vos futurs projets avec les hirondelles? Vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller? Continuer, bien évidemment. Continuer à faire connaître votre marque, j'imagine.
Oui. Alors, en fait, on a pas mal de projets en cours. On va sortir un produit, là, ça va être le 19 septembre, en collaboration avec 1083, parce qu'on valorise des chutes de leur toile de jean. Et à la suite de ça, on est en train en ce moment de préparer une campagne de financement participatif sur Ulule, où l'idée c'est de faire connaître notre démarche et d'impliquer le plus de monde possible pour essayer de passer un cap. Donc il y a ça qui est en cours.
C'est top ça.
Ouais, c'est super intéressant, c'est hyper riche en fait, parce que ça nous oblige à préciser de façon encore plus pertinente ce qu'on fait déjà, mais de le rendre plus intelligible. Et c'est un exercice qui nous sera précieux, quelle que soit l'issue de la campagne, je pense. Et on a déjà commencé une collaboration en rachetant des matières à la Gentle Factory, qui est une autre marque française engagée. Et du coup, on est en discussion pour sortir un produit peut-être en 2021, ensemble. Et puis d'autres après, peut-être pas encore suffisamment avancés pour qu'on puisse le communiquer. Mais voilà, ça illustre assez bien notre envie d'être au carrefour entre les tisseurs, les marques, tout ça, et de mettre en avant le fait que tous ensemble, on promeut l'économie circulaire et la collaboration, en fait. Le fait que c'est en se mettant ensemble les uns avec les autres qu'on peut faire avancer les choses.
Oui, et puis de s'entraider, parce que c'est vrai que des marques comme 1083, elles ont forcément des chutes de tissu et il faut forcément en faire quelque chose. Donc, s'il y a cet écosystème qui se met en place, c'est vraiment une belle entraide entre les différentes marques. C'est chouette, quoi.
Carrément.
Ce serait le rêve.
Oui.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Claire. Je pense qu'on a fait le tour.
Merci.
Puis à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir les hirondelles dans leur démarche et contribuer à l'émergence d'une mode plus responsable, elles proposent actuellement leurs vêtements en précommande grâce à leur campagne de crowdfunding sur Ulule. Je vous indiquerai le lien en barre de description. Comme toujours, si vous appréciez les différents épisodes de Basilic, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur votre application de podcast et à partager vos épisodes favoris avec vos proches, vos collègues et vos amis. Merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter et à m'encourager. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.